Il tourne sur la droite avant de se terminer en impasse sur une baie vitrée d'où provient de la lumière. Elle domine une grande salle souterraine, une dizaine de mètres en contrebas, de la taille approximative d'un gymnase. Des centaines de lits sont alignés. Dans chacun d'eux, une personne semble dormir, reliée à des appareils inconnus. D'étranges choses en forme de gouttes d'eau d'environ un mètre de hauteur déambulent dans les allées. Des éclats de couleurs les traversent, comme si un kaléidoscope était caché à l'intérieur. Bastien ne comprend plus rien. Il est dépassé. Tout semble irréel. Et puis, il n'a encore trouvé personne qui puisse porter secours à son ami. Il rebrousse chemin et court jusqu'à son point de départ. Il n'a plus qu'à espérer avoir plus de chance avec le deuxième couloir. Mais quand il arrive dans la salle de garde, elle est vide. Adeline a disparu. S'est-elle réveillée? Était-elle partie par l'autre issue? Sans lampe, elle n'aurait jamais pu se guider dans le noir. Le ventre noué, Bastien court maintenant dans l'autre couloir. Cette fois-ci, il ne croise aucun escalier, aucun renfoncement. Au bout, il tourne sur la gauche, craignant de trouver une nouvelle impasse aboutissant sur une baie vitrée. Mais il débouche sur une porte munie d'une vraie poignée. Bastien reprend à l'instant son souffle et entre d'un pas décidé. Il se trouve sur un grand balcon surplombant la grande salle de tout à l'heure. À quelques mètres de lui, un lit. Adeline y est couchée. Son souffle est paisible. Elle se repose. Il ne comprend toujours rien à ce qui se passe, mais il est rassuré. C'est alors qu'il entend derrière lui une sorte de chantement. Quand il se retourne, il voit une goutte, identique à celle d'en bas, s'approcher de lui. « Ne crains pas, assieds-toi dans le fauteuil. » Il a entendu distinctement cette phrase. C'est comme si elle s'était formée directement dans sa tête, sans qu'aucun son extérieur ne parvienne à son oreille. La goutte n'a d'ailleurs ni yeux, ni bras, ni bouche, ni même de haut-parleur visible. N'aie pas peur. Nous communiquons par télépathie. Bastien est abasourdi. Ne sachant quelle attitude adopter, il obéit. Mais qui êtes-vous? Vous êtes vivant? Vous êtes des machines? Je ne te veux aucun mal. Mais es-tu prêt à entendre les réponses à tes questions? Je veux comprendre. Nous ne sommes pas seulement télépathes, mais aussi télékinésistes. Devant Bastien, un tiroir s'ouvre tout seul. Une petite boîte s'envole et vient se poser sur ses genoux. Bastien regarde à l'intérieur et prend dans sa main une bille transparente d'environ 1 cm de diamètre. Il s'agit d'une bille de projection à propriétaire unique. Comme vous êtes le premier à la toucher, elle vous a adopté. Gardez-la en main et pensez à un dieu qui vous est familier. Bastien se remémore sa chambre, si loin d'ici. Et voici qu'une image en 3 dimensions de celle-ci apparaît dans la bille. Maintenant, pensez à un objet. Il revoit le vélo qu'il a laissé dans la forêt. Et aussitôt, l'image de celui-ci a remplacé celle de sa chambre. La goutte se déforme légèrement, et un globe transparent, gros comme un ballon de basket, vient se poser sur la table devant lui. C'est ma propre boule de projection. Contrairement à vous, je peux faire profiter qui je veux de mes visions. À l'intérieur de la boule, une image de la ville d'Espérande avant la catastrophe se forme. Des sons et des paroles émergent dans sa tête. C'est encore mieux que les films en relief de James Cameron. La cité est opulente, un paradis sur terre. Tout paraît simple. Tout le monde semble détendu. Chacun se prélasse dans des chaises longues ou se baigne dans des bassins d'eau chaude en plein air du monde de la vapeur. Il n'y a aucune voiture, peu de bruit. Par un effet de travelling avant, l'image se précise jusqu'à ce que la mairie prenne toute la place dans le globe. Comme spectateur, Bastien traverse même la baie vitrée à l'étage et se retrouve dans un vaste bureau où 2 personnages se font face. « Monsieur le maire, Ce n'est plus possible, cela va trop loin. Il est trop tard pour arrêter. Regardez par la fenêtre. Le monde entier admire notre cité idéale. Mais cela a un coût, forcément. Mérite-t-elle que l'on devienne complice de la régression de l'humanité? Jérôme, mon ami, vous m'êtes témoin que je n'ai jamais voulu ça. Quand j'ai mis nos laboratoires secrets à disposition de partenaires privés, je ne cherchais qu'à trouver des sources de financement pour donner vie à mon rêve. Et j'ai réussi. Certes, je reconnais que ces financeurs ont pris le contrôle total des recherches. Ce que vous m'apprenez me terrifie. Mais je n'ai plus d'autre choix que de continuer. Je serai peut-être damné, mais au moins la cité restera. De toute façon, si je me rebellais, il me ferait disparaître et mettrait un autre pantin à ma place. Monsieur le maire, vous ne mesurez pas la gravité de la situation. C'est l'arme biologique absolue qu'ils ont développée. À côté d'elle, le virus Ebola passe pour un vulgaire rhume. Vous dramatisez. Je ne peux plus vous suivre, voici ma démission. Vous en mesurez les conséquences? Oui, monsieur le maire. Jérôme se retourne pour quitter la pièce. Le maire sort une arme munie d'un silencieux et abat le démissionnaire avant de prendre le téléphone. C'est moi. J'ai dû me passer des services de Jérôme. J'ai besoin de votre équipe de nettoyage. La sphère devient transparente. Bastien s'adresse à la goutte. Mais c'est un film? Il y a des caméras? Non, juste mes souvenirs. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les gardiens. Nous surveillons chaque planète habitée. Mais nous n'intervenons qu'exceptionnellement. Seulement lorsque la folie de quelques-uns met en péril une planète entière. Vous voulez dire que vous nous observez depuis toujours? Depuis l'apparition de la vie sur Terre. Je ne vous crois pas, sinon vous seriez déjà intervenu contre le nazisme, par exemple. Qui vous dit que nous n'avons rien fait? Mais les camps, les bombardements, tout ça, vous avez laissé faire? Nous agissons en douceur, sans être vus, comme l'homéopathie, si vous voulez. Sinon, l'humanité ne n'apprendrait jamais rien. Ouais. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous intervenu ici? Dans le globe apparaît un laboratoire high-tech, balayé par la lumière de gyrophares rouges. Une sonnerie d'alarme retentit dans la tête de Bastien. Des hommes en blouse blanche courent dans tous les sens, vérifient les indicateurs sur différents écrans. La porte d'un ascenseur s'ouvre, laissant passer le maire. Que se passe-t-il? Une fuite dans le système de ventilation. Il se propage dans tout le laboratoire. De lourdes portes étanches se ferment devant les issues. Vous n'auriez pas dû venir, monsieur le maire. Cet espace aussi vient d'être contaminé. Le labo est désormais totalement isolé pour retarder la diffusion du virus. Mais c'est trop tard. Il est hors de contrôle. Dans 2 jours, il n'y aura plus une personne vivante dans la cité. Dans 2 semaines, ce sera tout le continent et dans 2 mois, la planète entière. Vous savez ce qu'il nous reste à faire pour éviter une fin atroce. Sans un mot, toutes les personnes présentes sortent un pilulier rouge vif de leur poche. Ils prennent la pastille qu'il contient, la mettent en bouche et la mordent d'un coup sec. Quelques secondes à peine, et le suicide collectif est achevé. Sans transition, une vue extérieure de la cité prend forme, grouillante de vie. Soudain, toutes les personnes présentes semblent prises d'un malaise et s'affalent. Des gouttes apparaissent et les corps inanimés se soulèvent à quelques centimètres du sol et glissent dans une même direction. Bastien les voit traverser une sorte de sas dans lequel un mélange gazeux est pulvérisé en permanence. Ils descendent un grand escalier voûté qui semble interminable jusqu'à une immense salle qu'il reconnaît aussitôt. Ils sont couchés dans des lits et font l'objet de soins immédiats. De nouveau, Bastien voit l'extérieur de la cité. Il n'y a plus personne. Une explosion gigantesque illumine la nuit, suivie d'une onde de choc qui détruit tous les bâtiments dans un vacarme assourdissant. Par un effet de zoom arrière, Bastien peut maintenant voir Esperande comme s'il la survolait en avion. Une gigantesque boule de feu se forme sur toute la cité, carbonisant tout. Lorsque la vision s'arrête, Bastien reste sans voix. La voix de la goutte retentit de nouveau dans sa tête. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Il fallait éradiquer ce virus par une chaleur de 1000 degrés. Pour le laboratoire proprement dit, nous avons dû mettre en œuvre une technologie qui nous est propre, qui enveloppe les portes étanches et diffuse un gaz et de la vapeur qui décontamine et stérilise les lieux. Mais surtout, nous avons pris soin de tous les humains pour les guérir. Nous avons aussi dû dissuader toute personne d'approcher tant que nous n'étions pas sûrs que la souche était entièrement et définitivement éradiquée. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est désormais le cas. Maintenant, qu'allez-vous faire de nous? J'imagine que personne ne doit connaître votre existence. C'est là que vous entrez en scène. Tout le monde, vous y compris, va oublier ce qui s'est réellement passé pour se souvenir de ceci. Lorsqu'une alarme s'est déclenchée, annonçant l'explosion imminente de la centrale énergétique de la ville, la population se réfugiait dans l'abri souterrain construit par la municipalité. Le maire a géré lui-même l'alerte. Il a disparu dans l'explosion avec ses proches, alors qu'il vérifiait que tout le monde était en sécurité. Malheureusement, les décombres des bâtiments en surface ont obstrué toutes les sorties. Quelques sauveteurs intrépides se sont glissés dans les décombres. Ils se rappelleront avoir chuté dans des gaines d'aération jusqu'à la salle souterraine. Mais deux jeunes gens ont fini par trouver un accès dans les décombres. Une nouvelle fois, l'alarme se déclenche dans le poste principal de surveillance. « Sergent, regardez !»«
Quoi donc? Des chevreuils, encore une fois ?»«
Non, regardez! Regardez !» Le sous-officier finit par se lever et regarde par la fenêtre. Dans la lumière blafarde de l'aube, un étrange cortège approche en provenance de la ville fantôme. Des centaines de personnes marchent en silence, l'air hagard. À leur tête, deux jeunes gens. Ils sautent sur le téléphone pour prendre les consignes auprès du commandement. Des bus sont conditionnés pour conduire les rescapés jusqu'à la ville côtière, où tout est mis en œuvre pour les prendre en charge. Dans le bus, Bastien se réveille après s'être assoupi un moment. Une sensation étrange le saisit. À ses côtés, Adeline est enthousiaste. « Bastien, tu es un héros, mon héros. Toutes ces personnes te doivent la vie. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bizarre. »«
Je ne sais pas au juste. Ça m'a l'air plus compliqué que ça. »
Dans la doublure de son blouson, il sent quelque chose. Il arrive à l'extraire par un petit trou au fond de sa poche. Il sort une petite boule dans laquelle il voit le visage d'Adeline en 3D.
« Regarde, Adeline. Tu me surprendras toujours. Je croyais que tu avais passé l'âge de jouer aux billes. »
Eric Vossel.